Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque met en cause l'introduction de l'euro en Tchéquie en 2010. La télévision Prima aura un nouveau directeur. Liquidation des déchets allemands en République tchèque. Selon le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek, le projet d'introduction de l'euro en République tchèque en 2010, comme le prévoyait le cabinet de son prédécesseur Jiří Paroubek, n'est pas réaliste. Le chef de gouvernement tchèque a fait cette déclaration lors de sa visite en Slovaquie. Désormais, les spécialistes voient comme plus réelle l'introduction de l'euro en Tchéquie entre 2012 et 2013. Selon le serveur EuroOnline, c'est le manager lituanien Aleksandras Cesnavičius qui sera nommé directeur général de la télévision privée tchèque Prima. Il remplacera le chef actuel de cette télévision, Martin Dvořák, qui occupera le poste de directeur économique de la télévision Prima. La première étape du retour de déchets allemands des décharges illégales en République tchèque est terminée, selon l'agence DPA. On a renvoyé en Allemagne quelques 1100 tonnes de déchets de la décharge de Lipčeves dans la région de Louny en Bohême du Nord-Ouest. Des dizaines de villes tchèques se préparent à la semaine européenne de la mobilité qui commencera le samedi 16 septembre. Dans son cadre, une quarantaine de villes tchèques interdiront pour au moins une journée le trafic automobile dans les rues choisies. L'organisation écologique Greenpeace a lancé en Tchéquie une campagne contre le maïs génétiquement modifié. Les militants de Greenpeace informent le public tchèque sur les risques de la culture de cette plante. Dans le cadre de la campagne, on a publié aussi la liste de 57 producteurs agricoles qui ont sémé en Tchéquie le maïs génétiquement modifié de la société Monsanto. Le cambrioleur ayant dévalisé dans l'après-midi de ce jeudi une banque au centre de la ville d'Olomouc en Moravie centrale a été arrêté 4 minutes seulement après le vol. La police a trouvé chez lui quelques dizaines de milliers de couronnes. Plusieurs concerts seront donnés entre septembre et décembre prochain par le Conservatoire de Prague à l'occasion du centenaire de la naissance de Jaroslav Ježek, compositeur tchèque formé par la musique classique, mais qui était ouvert à toutes les nouvelles tendances musicales de son temps. Météo. Vendredi, fête de toutes les Yolana, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera clair à variable et les températures diurnes se situeront entre 22 et 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Des sujets considérés comme controversés ont été évoqués au cours de la visite du chef de la diplomatie tchèque Alexandre Vondra à Berlin, lesquels nous vous le dirons tout de suite dans ces faits événements. Hier, nous vous avons informé de la révocation du chef de la première scène dans le pays, le Théâtre National. Aujourd'hui, ce sera une petite carte de visite du nouveau directeur nommé à sa place. 100 années s'écouleront depuis la naissance de Jaroslav Ježek, compositeur qui est considéré comme le fondateur de la musique de jazz et de danse tchèque moderne. Très bonne écoute à toutes et à tous. Pour sa deuxième visite officielle à l'étranger après l'incontournable Slovaquie, c'est en Allemagne que s'est rendu le nouveau chef de la diplomatie tchèque, Alexandre Vondra. Si des sujets litigieux ont été évoqués, la rencontre s'est déroulée sous le signe de l'entente cordiale. Détail avec Anna Kubischta.
Le geste a d'emblée été noté par le ministère allemand des Affaires étrangères. Frank-Walter Steinmeier s'est félicité de ce que son homologue tchèque se rende en Allemagne 10 jours seulement après sa prise de fonction. Après l'avoir déclaré au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Vondra a répété qu'il considérait les relations tchéco-allemandes comme un modèle pour deux pays de tailles différentes et qui ont un passé commun si houleux. Tous deux ont insisté sur le fait que le Fonds tchéco-allemand pour l'avenir devrait pouvoir poursuivre ses activités au-delà de 2007, date butoir fixée à l'origine. Créé en 1997, suite à la déclaration commune de réconciliation dont Vondra avait été lui-même l'artisan à l'époque, ce fonds a pour objectif de soutenir financièrement des projets allant dans le sens d'une compréhension mutuelle entre les deux peuples. Mais des sujets qui coincent étaient également à l'ordre du jour. Schengen d'abord. Quelques jours après que la Commission européenne a annoncé le retard dans l'accession des nouveaux membres à l'espace Schengen, Alexander Vondra a fait part au chef de la diplomatie allemande de la déception et l'incompréhension de la République tchèque devant sa déclaration. D'après lui, les justifications bruxelloises sur les problèmes techniques relatifs à la création d'une banque de données sur les citoyens ne sont pas recevables. Prévue pour octobre 2007, la Commission a évoqué un retard d'une année environ quant à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Après avoir rappelé que le pays avait déjà investi des fonds significatifs pour la mise en place du système informatique nécessaire, Alexander Vondra a également souligné qu'un tel retard pouvait avoir des conséquences psychologiques négatives auprès des populations des tout jeunes pays membres qui ont souvent l'impression d'être quelque peu négligés par Bruxelles. Les relations modèles, évoquées par Vondra, ne suffisent cependant pas à compenser les dissensions qui subsistent sur certains points sensibles ayant trait à la Seconde Guerre mondiale et ses suites. Rappelons en effet qu'en Allemagne, l'Union des expulsés milite en faveur de la création, à Berlin, d'un centre contre l'expulsion, un projet qui a suscité les foudres des Polonais notamment et déplaît également aux Tchèques. Le ministre des Affaires étrangères tchèque a pris ses distances vis-à-vis du projet. S'il a précisé que la République tchèque ne le soutiendrait pas, il a toutefois rappelé l'importance de la déclaration commune de 1997 qui encadre les relations bilatérales dans un esprit de réconciliation et de tolérance, ainsi que de refus de faire passer en force une seule et unique vision de l'histoire. Les deux chefs de la diplomatie, tchèque et allemand, ont aussi joué quelques notes plus légères. Vondra a en effet proposé à son homologue de créer une alliance pour la bière pour lutter contre l'augmentation éventuelle de la taxe sur la boisson nationale et favorite des deux pays. Preuve que même aux affaires étrangères, il n'y a pas de petite politique.
Comme nous vous en avons déjà informé dans nos précédentes émissions, le nouveau ministre de la Culture a limogé le directeur du Théâtre National sitôt après son entrée en fonction. Un nouveau directeur intérimaire a été nommé immédiatement. Qui est-il et quels sont ses plans avec la plus prestigieuse scène du théâtre tchèque, Alain Slevinsky?
Le directeur du Théâtre National, Daniel Dvořák, a été relevé de ses fonctions suite à un audit commandé par l'ancien ministre de la Culture, Vítězslav Jandák. En effet, après avoir pris connaissance des résultats de cet audit justement, le nouveau ministre de la Culture, Martin Stepanek, a décidé de révoquer sur l'heure le directeur de ce que les Tchèques considèrent comme leur chapelle dorée, la plus grande scène tchèque, le Théâtre National, dont les imposants bâtiments, l'un historique, l'autre de conception ultramoderne, se trouvent sur la rive droite de la Vltava. Un nouveau directeur, intérimaire pour l'instant, a été nommé, Jan Mrzena. Le ministre de la Culture disait vrai en affirmant que le nouveau directeur serait une personne à la hauteur de ses fonctions. Jan Mrzena a été le président du Conseil de la télévision tchèque, société d'intérêt public, de mai 2001 à mai 2005. Il a aussi été le directeur du théâtre de la Bohème du Sud, à České Budějovice, le chef-lieu de la région, pendant 7 ans. Quels sont les premiers sentiments du nouveau directeur ? Je suis très heureux de la confiance que m'accorde Monsieur le ministre. Je vais m'efforcer d'accomplir au mieux le mandat dont il m'a chargé en tant qu'administrateur du théâtre. Jan Mrzena a ajouté que sa fonction était intérimaire, d'ici à ce qu'un nouveau directeur soit nommé sur la base des résultats d'un concours. Des problèmes dans le financement du Théâtre National ont conduit à la chute de l'ancien directeur, Daniel Dvořák. Le nouveau, Jan Mrzena, compte justement s'intéresser aux finances. Je vais me faire présenter immédiatement les résultats de l'audit réalisé au Théâtre National. Je vais m'intéresser surtout à ce que le Théâtre National a fait après avoir reçu les résultats du contrôle ordonné par le ministère de la Culture. Quelles sont les mesures qu'il a prises et comment ces mesures sont réalisées? Le nouveau directeur de la Chapelle Dorée, selon ses dires, ne planifierait pas de changement dans le fonctionnement ou le programme du théâtre. Première tâche pour lui, faire la connaissance de ses employés. Je me prépare à une rencontre, tout d'abord avec la direction des différents ensembles, et ensuite avec les membres de ces ensembles. Il s'agira d'un premier contact, mais aussi de faire la lumière sur certaines circonstances qui ont conduit à la révocation de l'ancien directeur, Daniel Dvořák. Rappelons que, quand le directeur du Théâtre National parle des ensembles du Théâtre National, il s'agit de 3 scènes, l'opéra, le ballet et la comédie dramatique.
Un conservatoire, Jaroslav Ježek, un festival automnal de jazz à Prague, rendant hommage à Ježek, une exposition au musée de la musique tchèque, l'appartement de Jaroslav Ježek, aménagé en musée qu'on peut visiter à Prague rue Kaprova, un film intitulé Le monde en bleu foncé, d'après sa chanson la plus célèbre, tel est le principal message que nous a laissé de sa vie interrompue à 35 ans, Jaroslav Ježek, compositeur, pianiste, fondateur de la musique de jazz et de danse tchèque moderne. Le 25 septembre prochain, nous célébrerons le centenaire de sa naissance.
Netoliko, že je tma. Ale nevidím. Vím, že je tu všude tma. Já ji nevidím. Vidím.
Jaroslav Ježek est un destin et un talent exceptionnel. Frappé de cécité et souffrant de problèmes d'audition, il a créé, malgré ce destin, une œuvre qui le dépasse, ainsi que son époque. Déjà lors de ses études de composition et de piano au Conservatoire de Prague, il commence à composer. En 1927, un mécène lui offre un séjour d'un an à Paris et c'est là-bas que Jaroslav Ježek rencontre de près le jazz. Un tournant décisif se produit un an plus tard quand il devient collaborateur du fameux duo de comédiens Voskovets-Werich. Au cours des 10 années à venir, il compose la musique pour leurs scènes d'avant-garde, le théâtre libéré, ainsi que pour leurs nombreux films. Il n'oublie pas non plus la création classique pour piano, archet et orchestre et compose des œuvres novatrices utilisant le potentiel du jazz. La carrière de ce génie est interrompue en 1938 avec la fermeture du théâtre libéré. Avec Werich et Voskovets, auxquels il est uni, outre la création musicale, par des attitudes antifascistes, il s'exile aux États-Unis où les compatriotes lui réservent un accueil chaleureux. Il y dirige un chœur et rencontre sa future femme, Frances, qu'il épouse quelques jours avant sa mort, le jour de l'an 1942, à l'âge de 35 ans. Comme si sa prédiction prononcée sur Mozart, dont il est un grand admirateur, s'était accomplie. J'ai peur de mourir aussi jeune que lui. George Gershwin est un autre compositeur que Jaroslav Ježek admirait pour sa rhapsodie en bleu notamment, devenue la couleur de Ježek. En effet, à cause de la leucome dont il souffrait, il percevait le monde comme un univers bleu foncé. Il écrivait sur des papiers bleus, portait des costumes bleus, et le bleu apparaît aussi dans le titre de l'une de ses chansons, devenue la plus connue grâce au film du même nom, Le Monde en bleu foncé, racontant l'histoire des pilotes tchécoslovaques en Grande-Bretagne et nominé aux Oscars. Le réalisateur Jan Svirak en dit: la musique de Jaroslav Ježek est à même d'exprimer ce que parfois le dialogue n'arrive pas. La déception, l'amertume et la conciliation.
Netoliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím.
Ta je krásná, Honzíku. Ježíš, ta je tak krásná, že jo?
Je. Ale nemůžu jí hrát do nekonečna.
Ale můžeš. Já jinou nepotřebuju. Naučíš mě hrát?
Naučím.
Já ho chtěl, ale táta říkal, harmoniku bych ti koupil, to jo, tam má taky ty klapky. Ono se totiž piano do zemědělství nehodí, víš. Hraješ a do toho ti bučej krávy. Naučíš mě hrát?
Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak.
C'est par cette chanson de Jaroslav Ježek tirée du film Le Monde en bleu foncé auquel elle a donné son nom que ces faits événements se terminent. Merci de votre attention et restez avec nous pour la suite de l'émission sur Radio Prague.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Le printemps de Prague 1968, une période souvent décrite comme une tentative de conférer au socialisme un visage humain, période marquée par un immense élan, voire l'effervescence de la population tchèque. Un vent de liberté souffle dans le pays, on s'exprime plus facilement et on écoute les radios occidentales. L'un des nombreux signes de ce changement est l'engouement pour le rock'n'roll. Des centaines de groupes en nom provocateur, les rebelles, les matadors, se donnent en concert dans une ambiance enthousiaste. Mais en août 1968, les forces armées du pacte de Varsovie envahissent la capitale. Les soviétiques comptent bien mettre fin à cette récente politique de libéralisation et participent à l'installation d'un nouvel état policier chargé de réprimer tous les actes, toutes les manifestations qui ne seraient pas conformes à la volonté de Moscou. Quelles en ont été les conséquences pour la musique non conforme ou les groupes contestataires de l'écrasement du printemps de Prague, dont nous nous sommes récemment rappelés le 38e anniversaire? Jouer du rock'n'roll devient presque interdit, et les groupes existants ou en formation sont désormais obligés de cacher leur activité. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut parler de musique underground. Ce terme a été emprunté à la culture américaine par les membres même de la dissidence tchèque qui n'osaient pas utiliser le mot équivalent dans leur propre langue. La transparence de cette appellation aurait été provocatrice envers une police politique décidée à punir toute activité clandestine. Plus de détails avec Caroline Kschichten.
Ce mot a d'abord été surtout utilisé en référence au groupe des Plastic People of the Universe, qui s'est formé juste après l'invasion des communistes en 1968. Ce groupe, qui en plus de correspondre parfaitement à l'appellation de souterrain, a essentiellement dans ses débuts des influences américaines, en comptant des groupes comme The Velvet Underground ou Frank Zappa. Le rock américain est plus que jamais un symbole de liberté d'expression et de grande modernité, deux idéaux inaccessibles sous l'oppression. Les premières chansons des Plastics compte donc essentiellement des reprises de leurs idoles, mais aussi certaines compositions en langue tchèque. Les paroles provocatrices des rockers de l'Ouest prennent un sens nouveau, mais tout à fait éloquent lorsqu'elles sont chantées à l'intérieur de la Tchécoslovaquie communiste. Le groupe The Fugs affirme ainsi « Quand la mode de la musique change, les murs de la ville tremblent ». Mais c'est vers 1972 que le groupe prend une nouvelle direction. Milan Hrasa et les autres membres des Plastics décident de laisser tomber les reprises pour mieux se concentrer sur leur propre identité, leurs racines, et composent de nouvelles chansons uniquement en tchèque. Parmi les nouveaux textes sont choisis des poèmes d'écrivains dissidents, comme ceux du très audacieux Egon Bondy, connu pour ses textes sulfureux, ou František Vaněček, qui dénonce les faiblesses du régime communiste dans un texte intitulé « 100 points ».
Bojí se mladých pro jejich nevinnost. Bojí se dokonce školáků.
Ce texte est clamé à la 10e minute d'un morceau instrumental et contient par exemple ces quelques phrases. Ils ont peur des vieux pour leur mémoire, ils ont peur des jeunes pour leur innocence, ils ont peur même des enfants qui vont à l'école. Ils ont peur des tombes et des fleurs que les gens y déposent. Ils ont peur des conventions qu'ils signent. Ils ont peur de Marx, ils ont peur de Lénine, ils ont peur du socialisme. On peut dire aujourd'hui que c'est grâce à la musique rock que le mouvement underground et l'esprit de la contre-culture ont pu se développer si abondamment en Tchécoslovaquie. Des groupes tels que les Plastic People of the Universe font découvrir au public des poèmes qui étaient restés jusque-là dans le domaine confidentiel et rassemblent des foules de jeunes qui se sentent désormais appartenir à un large mouvement de rébellion. Ce public ne se compose d'ailleurs pas seulement d'intellectuels militants, mais aussi et surtout de jeunes travailleurs révoltés, dépossédés des fragments de liberté qu'ils avaient eu la chance d'entrevoir pendant les mois heureux du printemps de Prague. La musique passe de main en main sur des enregistrements pirates et les rumeurs de concerts se propagent à toute vitesse dans la ville de Prague. Cet engouement est bien sûr considéré comme une menace sérieuse par le pouvoir, qui décide dès 1970 la suppression de la licence professionnelle des musiciens des Plastics, leur demandant également de rétribuer l'ensemble de leur matériel à l'État. Cette décision est le début d'une longue suite de mesures prises à l'encontre des membres du groupe et de leurs fans. Les concerts sont déguisés en fêtes de mariage et autres anniversaires pour ne pas être portés à la connaissance de la police. On les organise dans des endroits secrets, écartés de Prague. Václav Havel, l'ex-président de la République, prêtera d'ailleurs sa maison de campagne pour l'occasion de festivals. Cela n'empêche pourtant pas les interventions des forces de police, qui arrivent régulièrement à être informées de ces événements, interrompant les concerts et procédant à des interrogatoires et arrestations massives. En 1976, lors du deuxième festival de la seconde culture dans le village de Bojanovice, on arrête plus d'une centaine de personnes, confisque les textes et livre samizdat, c'est-à-dire autoproduit, il s'agit ici de la littérature non officielle, et saisit encore une fois le matériel des Plastics, instruments et enceintes qui avaient été cette fois fabriqués à la main, arrangés par l'un des membres du groupe qui, par chance, était un bon électricien. Dès le lendemain, les journaux de l'Ouest relatent toute l'histoire et l'ensemble du pays prend connaissance de l'existence de cette culture underground, restée jusqu'alors secrète. Les procès entamés contre les musiciens sont la meilleure publicité offerte aux rockers dissidents. Les membres de plusieurs groupes sont finalement envoyés en prison pour une durée allant de quelques mois à un an et demi. La solidarité internationale et intellectuelle s'engage. En 1977, environ 200 personnes signent la Charte 77, appelant le gouvernement à respecter ses engagements concernant le Manifeste des droits de l'homme qu'il avait approuvé lors des accords d'Helsinki en 1974. En France, ce mouvement est supporté par un comité de soutien auquel participent par exemple l'écrivain Vercors ou Yves Montand. Les signatures sont nominales et la police secrète ne tarde pas à concentrer ses forces sur ceux qu'elle considère comme des opposants au pouvoir. Les citoyens étrangers sont amenés à rentrer dans leur pays. L'un des musiciens des Plastics, Paul Wilson, quitte le pays avec dans ses poches quelques enregistrements du groupe et aide à le faire connaître dans le Grand Ouest. Les Plastic People of the Universe continuent à jouer leur musique malgré les multiples acharnements policiers dont ils sont victimes jusqu'en 1989 et influencent ce qu'on finira par appeler la deuxième génération de l'underground au début des années 1980. Des nouveaux groupes, aux noms aussi variés que Soldats des Chiens ou Garage, perpétuent la tradition du rock dissident tchécoslovaque et subissent la même pression que leurs aînés quelques années plus tôt.
Škrtem pera jsem tu smečku zrušil, abych tu píseň nevyrušil. Zas je píseň samotná, svým způsobem poslá.
Après la révolution de velours en 1989, ces groupes, et particulièrement les Plastic People of the Universe, continuent à influencer la scène tchèque, qui glorifie leur passé résistant et s'inspire des mêmes influences, c'est-à-dire le rock psychédélique américain. Cependant, lorsqu'on demande l'avis des anciens rockers dissidents concernant la liberté dont bénéficie la musique aujourd'hui, ils manifestent une légère déception. Pour eux, souvent, la musique est aujourd'hui victime des lois du marché international. Le prix des CD est plus cher et donc abordable par un nombre moins important de personnes, et les groupes tchèques sont concurrencés par une diffusion massive de musique en provenance des États-Unis et d'Angleterre. De plus, ils insistent sur la perte de l'esprit fédérateur de cette musique. Les concerts ne sont plus attendus avec autant d'impatience et ne représentent plus l'endroit privilégié d'un rassemblement massif de gens désirant partager leurs opinions. La musique alternative n'est plus marginale aujourd'hui à cause de la répression dont elle était victime, mais parce qu'elle est noyée dans le flot de la musique commerciale destinée à enrichir musiciens et producteurs. En somme, on pourrait supposer que le rock tchèque et slovaque est aujourd'hui victime de la même perte de vigueur qu'il subit partout ailleurs. J'ose penser que ce n'est pas la raison pour laquelle il faut annoncer la fin du rock ou la fin de la musique alternative, qui trouve encore son public aujourd'hui et trouvera sans aucun doute des moyens détournés pour continuer à exister et à évoluer avec les mœurs.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.